Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes samedi 28 août 2021, c'est le moment du journal de la radio Nzamba Agathe Kakawe. Voici d'abord les titres. Les voix sont unanimes pour réclamer le rétablissement de l'accord d'Arusha. Divers acteurs politiques se sont coalisés ce 28 août à l'occasion du 21e anniversaire de cet accord pour lancer une campagne appelant à sa réhabilitation. Et puis cette alerte à la prolifération des cas positifs au Covid-19 en commune Rumonge, une situation qui pourrait s'expliquer par le non-respect des mesures barrières pour se prémunir contre la pandémie. Il suffit d'un rien pour faire le bonheur des réfugiés. Les femmes réfugiées du camp de Mulongwe en RDC sont contentes d'avoir reçu ce samedi une aide de produits d'hygiène. Vous l'entendrez dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
28 août 2021, il y a 21 ans jour pour jour, 17 partis politiques et des mouvements politiques armés ont signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Ce texte a été le résultat d'après négociations sous la facilitation de feu Nelson Mandela, ancien président sud-africain. L'accord était censé mettre fin à cette année d'une crise déclenchée par l'assassinat du premier président démocratiquement élu Mathieu Ndadaye. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi regrette que cet accord ait été violé par le régime CNDD-FDD. À l'occasion de son 21e anniversaire, ce mouvement lance une campagne de sensibilisation pour le rétablissement de cet accord. On écoute Emery Patrick Guilaneza, président du MAP Burundi.
La communauté internationale considérait que l'accord d'Arusha était le fondement de la paix au Burundi et que le processus de révision de la constitution de 2005 a hypothéqué les acquis de l'accord d'Arusha. Très récemment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a recommandé que les garants de l'accord d'Arusha et d'autres partenaires au Burundi cherchent à rétablir l'accord d'Arusha au Burundi. La même recommandation a été la conclusion des conférences que MAP Burundi Buhire a organisées sur l'accord d'Arusha. En ce 21e anniversaire de l'accord d'Arusha, MAP Burundi Buhire tient à rappeler aux Burundais, notamment aux jeunes générations, pourquoi cet accord de paix et de réconciliation est la base sur laquelle les Burundais avaient accepté de vivre ensemble dans la paix et la stabilité. Un contrat social, un contrat politique qui devrait garantir la sécurité à tout Burundais. Pour ce faire, nous nous sommes associés à d'autres collègues dans la sphère politique burundaise, dont certains ont négocié cet accord de paix et de réconciliation.
Tous les Burundais devraient se lever pour défendre et réhabiliter l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est l'appel lancé par Charles Nditije, président du parti Uprona non reconnu par le pouvoir de Gitega. Selon lui, l'accord a été enterré par le parti CNDD-FDD qui ne songe qu'à ses propres intérêts au détriment du peuple burundais. Et cela est urgent car demain sera trop tard. Écoutez Charles Nditige.
L'accord d'Arusha, tout comme la constitution du Burundi qui en est une émanation, ne peuvent en aucun cas être une propriété privée d'un seul parti politique, fut-il celui au pouvoir. Ils sont la propriété de tout le peuple burundais dans sa diversité ethnique, politique et sociale. Leur violation constitue donc un acte de trahison pour le peuple burundais. Les partis politiques, les coalitions politiques, toutes les forces vives de la nation, les femmes, les jeunes, devraient donc se mobiliser pour exiger le rétablissement de cet accord. Ils devraient mettre de côté toute autre considération personnelle, matérielle ou partisane, et former un vaste front d'une résistance interethnique pour se focaliser sur un seul objectif prioritaire, le seul qui vaille la peine, à savoir la paix, la sécurité, la dignité du peuple burundais et qui passe par la restauration de l'accord d'Arusha pour la paix, la réconciliation et la constitution de mars 2005 qui avait pu stabiliser le pays pendant plus d'une décennie. Nous devons tous nous engager, surtout nous les responsables, et nous convaincre mutuellement que cette œuvre salvatrice ne sera ni celle de la sous-région, ni celle de l'Union africaine, ni de l'ONU, mais bel et bien avant tout celle des dignes fils et filles du Burundi. Comme l'a dit un grand homme politique, quand un peuple ne défend plus ses libertés, ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Nous avons donc l'obligation d'aider, de mobiliser, d'éduquer, d'organiser le peuple à défendre cet accord historique, et c'est urgent car demain sera trop tard.
Les gouvernements de la sous-région et les organisations internationales qui avaient accompagné le Burundi dans la recherche de résolution de son conflit auraient dû continuer à accompagner le Burundi pour qu'il ne retombe pas dans les mêmes travers. C'est ce qu'indique Frédéric Bamvuginyumvira, le président de la coalition CEFOR Arusha. Bamvuginyumvira explique que la constitution de 2005 se fondait sur les principes que tous les citoyens, sans aucune distinction, ont le droit de vivre en paix et en sécurité. Suivez-le.
Après avoir analysé les racines du conflit burundais, les négociateurs se sont convenus de qualifier le conflit burundais, un, comme fondamentalement politique, avec des dimensions extrêmement ethniques très importantes, et deux, comme découlant d'une lutte de classe pour accéder et ou se maintenir au pouvoir. À partir de ce postulat, les négociants burundais se sont fixés alors comme objectif l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique et social, culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution bien inspirée des réalités du Burundi et fondée sur les valeurs de justice, de primauté du droit et de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits et libertés fondamentaux des individus. C'est le protocole 1, chapitre 1, article 5, point 2. Et c'est ainsi que le protocole 2 va avoir trait au principe de la démocratie et de la bonne gouvernance pour que tous les citoyens aient les mêmes droits et les mêmes obligations et que la dignité humaine soit respectée et protégée. Protocole 2, article 3. Selon ce même protocole, nul ne peut être traité de manière arbitraire ni par l'État, ni par ses organes. Protocole 2, article 3.5. La nouvelle constitution comportait toutes les provisions nécessaires pour une nouvelle vie politique, sociale et économique. Et pour sécuriser tout le monde, le protocole 3 se fondait sur les principes que tous les citoyens, sans aucune distinction, ont droit de vivre en paix et en sécurité et que le territoire du Burundi doit être protégé. Le protocole 5 avait quant à lui pour mission de rassembler toutes ces organisations étatiques, régionales et internationales qui avaient accompagné le Burundi dans cette recherche de résolution de son conflit pour la stabilité politique, sociale et économique. Ces organisations devaient continuer à accompagner le Burundi pour qu'il ne retombe dans les mêmes travers comme l'expérience d'ailleurs le prouve.
Une courte pause et on se retrouve juste après.
Inzamba.
Suite de cette édition avec cette brève, au moins 8 personnes seraient mortes dans un accident de roulage survenu ce samedi tout près du chef-lieu de la commune Gasogwe dans la province de Muyinga. Les victimes sont des membres du parti au pouvoir qui se rendaient dans la vallée de Nyamuswaga pour les festivités de la journée dédiée à la jeunesse du parti au pouvoir. Notre source indique que ces personnes étaient dans un camion de transport de marchandises. Le camion surchargé roulait à grande vitesse, poursuit notre source. Grogne des résidents du chef-lieu de la province de Muyinga et des environs. Les commerçants comme les consommateurs s'insurgent contre la mesure prise par l'administration d'interdire l'ouverture des commerces à cause des cérémonies de journée dédiées à la Ligue des jeunes du CNDD-FDD. Ces commerçants sont d'autant plus révoltés que ces cérémonies se sont pourtant déroulées dans la vallée de Nyamuswaga, en commune Gasogwe. La mesure a également fâché les ménages qui n'ont pas pu s'approvisionner en sucre ou en pain pour le petit déjeuner. La même mesure a également perturbé la circulation sur la route Muyinga Ngozi. Le point avec Raoul Nyangurut.
Depuis très tôt le matin de ce samedi, les commerçants du centre urbain de Muyinga et ses environs étaient sommés par l'administration et le parti au pouvoir de garder leur commerce fermé. Il en est de même pour les petits et moyens commerçants du marché central de Muyinga. Le respect de la journée Imbonerakure Day oblige à lâcher une source du parti au pouvoir. Aussi, la colère est au comble chez certains consommateurs qui n'ont pas pu s'approvisionner en différentes denrées, surtout que c'est le week-end de repos. Le transport en commun a été perturbé également par ce rassemblement organisé par le parti au pouvoir CNDD-FDD. Les passagers qui empruntent la route Ngozi Muyinga et vice-versa devraient faire 2 kilomètres à pied avant d'arriver dans la vallée de Nyamuswaga, en commune Gasogwe, où se déroulaient les festivités du parti CNDD-FDD. Seules les banques, les microfinances et les agences de sociétés de communication étaient autorisées à ouvrir leurs portes. La population du centre urbain de Muyinga mal à l'aise se dit lésée et se demande comment les festivités du parti qui se déroulaient à 25 km du chef-lieu de la province peuvent paralyser leurs activités urbaines.
Le non-respect des mesures barrières du Covid-19 s'observe toujours dans la ville de Lumonge. La population semble insensible aux gestes barrières et ignore la gravité de cette maladie. Par ailleurs, certains hôpitaux de cette province enregistraient des cas de Covid-19 dans le milieu des fonctionnaires de l'État et du secteur privé. Le point avec Beni Akselakana.
Les mesures barrières contre la propagation du Covid-19 semblent être oubliées. Dans des lieux publics, dans les marchés de cette province, pas de distanciation sociale, le port de masque est presque dénigré. Il n'y a plus d'eau et du savon pour le lavage des mains dans ces lieux fréquentés par le public. Des passagers dans des véhicules de transport portent des masques dès qu'ils arrivent à la barrière de la police. On observe le même comportement à l'intérieur de l'église où des fidèles entrent en masse sans se laver les mains, sans masque et ne respectent pas les mesures de distanciation. Des gens continuent aussi à organiser des fêtes ou des cérémonies sans pour autant mettre en application les mesures barrières. Les gens n'hésitent pas de s'embrasser et à se serrer la main. Sauf à l'hôpital de Lumonge où les mesures barrières ont été renforcées, notamment en interdisant des entrées sans port de masque. D'autres lieux, rien n'est fait. Selon nos sources à l'hôpital de Lumonge, 3 infirmiers sont confinés à leur domicile après avoir été testés positifs au Covid-19 ce mardi. La responsable de l'hôpital ont obligé tout le personnel à se faire dépister. D'autres structures publics ou privés ne sont pas épargnés de cette pandémie. Le personnel du bureau communal de Lumonge s'est aligné à l'hôpital de Lumonge pour un dépistage. Un des travailleurs au service d'état civil a été testé positif. Il est confiné chez lui selon les mêmes sources. D'autres personnes ont été testées positives dans d'autres structures. Il s'agit de la microfinance Ishaka qui a enregistré 2 cas et l'antenne provinciale de l'Econet qui a enregistré 1 cas positif selon les sources à Lumonge. Toutes ces personnes testées positives sont toujours confinées à leur domicile selon les mêmes sources. Malgré cela, certains craignent une forte propagation dans cette ville du sud du pays si rien n'est fait.
Et puis, brièvement, 2 personnes, un policier et une sentinelle du bureau de l'agence de la poste en commune Vianda en province de Bururi sont dans la main de la police depuis ce vendredi. Selon une source au sein des employés de ce bureau, les 2 hommes ont été arrêtés après que des hommes non encore identifiés aient défoncé la porte du bureau de la poste de cette commune. Selon toujours la même source, un téléphone portable a été volé et les employés de la poste à Vianda ont trouvé la porte du coffre-fort bloquée. Les personnes arrêtées sont gardées au cachot du commissariat communal de police à Vianda pour des enquêtes. Faisons un tour en République démocratique du Congo où les femmes réfugiées au camp de Mulongwe se disent satisfaites d'une aide composée de produits d'hygiène. Cependant, elles demandent au ASAR d'augmenter la quantité de ces produits et de revoir le programme de distribution. Les détails avec Vanessa Mohitek.
Le Haut Commissariat des Réfugiés a distribué de l'aide composée de savons et serviettes hygiéniques destinées aux femmes du camp de Mulongwe. Les bénéficiaires ont indiqué que l'aide n'est du tout suffisante par rapport à l'intervalle de temps d'une distribution à l'autre.
L'aide a été bien accueillie, mais il y a un problème. Nous bénéficions des serviettes hygiéniques destinées à utiliser pendant 3 mois, tandis que le nombre suffit pour 1 mois seulement. Par exemple, ce qu'on nous a distribué, moi je vais l'utiliser pour 1 seul mois. Ils savent très bien que le besoin est mensuel. Ils devraient alors programmer la distribution en fonction de cet intervalle. Il y a d'autres qui trouvent que ces serviettes hygiéniques qu'on nous donne pour 3 mois sont insuffisantes, même pour 1 mois. Il y en a qui exigent beaucoup de serviettes hygiéniques, d'autres moins. Nos organismes diffèrent.
Même son de cloche chez les bénéficiaires du savon de la part du HCR dans son camp de Mulongwe qui indique que ce produit est aussi insuffisant. Joint par téléphone, la rédaction de la radio Indamba n'a pas pu trouver le responsable du HCR dans le camp des réfugiés de Mulongwe en République démocratique du Congo pour connaître la suite réservée aux doléances de ces réfugiés.
À 2 jours de la Journée internationale des victimes des disparitions forcées, célébrée le 30 août, nous vous parlons aujourd'hui de la situation de ce crime au Burundi. Le mini-magazine Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasombe.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idruya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Plus de 200 personnes ont été portées disparues au Burundi depuis l'année 2016 selon la campagne Ndondeza à la veille de la célébration du 30 août de la journée internationale des victimes des disparitions forcées. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 28 août 2021, nous allons revenir sur la situation sur ce crime dans le pays, le crime commis par des agents de l'État et les collaborateurs de l'État. Vous êtes avec Émile Nibasombe, bienvenue. Quand est-ce qu'on dit qu'une personne a été portée disparue? Les Nations Unies donnent une définition à la disparition forcée, comme nous le rapporte Éloge Divin Remesha.
Selon les Nations Unies, la disparition forcée, c'est l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État, suivi du déni, de la reconnaissance, de la privation de la liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi. À ce moment, explique de son côté Amnesty International, les proches l'entourage n'ont plus aucune nouvelle des personnes disparues après avoir été enlevées dans la rue ou chez elles. Le plus souvent, les victimes de disparition forcée ne sont jamais remises en liberté et leur sort demeure inconnu. Elles sont fréquemment torturées et beaucoup sont tuées. La disparition forcée est couramment utilisée comme stratégie pour répandre la terreur dans une société. Le sentiment d'insécurité et de peur qu'elle suscite ne touche pas seulement les proches des personnes disparues, mais aussi les différentes communautés et la société dans son ensemble, ajoute l'organisation Amnesty International. Au Burundi, depuis 2015, plusieurs opposants politiques, défenseurs des droits de l'homme, un journaliste et d'autres Burundais ont disparu sans laisser de traces. Les autorités burundaises n'ont pas fait d'investigation sur ces cas, allant jusqu'à nier l'existence de disparitions forcées dans le pays. Le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, qui enquête sur les disparitions forcées à travers sa campagne Ndondeza, a documenté plus de 200 cas depuis 2016, dont une trentaine depuis la prise de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye.
Depuis 2016, le Forum pour la conscience et le développement enquête donc sur les disparitions forcées au Burundi à travers sa campagne Ndondeza. Nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance ont demandé au président du FOCODE, Pacifique Nini Nahazwe, si ce qui se passe aujourd'hui n'est pas similaire au crime qui visait principalement les militants du FNL après les élections de 2010.
Le CNDD-FDD s'est rendu compte que malgré la répression, le parti CNR d'Agathon Rwasa a gardé une importance considérable et il est possible aujourd'hui que les arrestations, les enlèvements, les kidnappings qu'on voit visent le même objectif qu'en 2010, c'est-à-dire affaiblir le parti CNR, terroriser les militants du parti CNR, détruire les noyaux de commandement ou de direction, de responsabilité du parti CNL un peu partout dans le pays. Et quand on voit que des personnages comme Eringo Mirakiza, responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, sont cibrés, Eringo Mirakiza n'était pas n'importe qui, c'était un acteur très important du parti. Il nous avait déjà parlé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui alertait, qui nous a alerté sur beaucoup de cas de disparition des militants du parti CNL. C'est quelqu'un qui s'intéressait à la vie de son parti, à la vie des militants, et c'est quelqu'un qui était très engagé et très convaincu de l'idéologie de son parti. Il faisait partie de la cellule de sécurité du parti ou des descentes d'Agathon Rwasa dans les différentes provinces du pays, et c'est pas la seule personne d'ailleurs qui disparaît dans cette cellule. Avant lui, il y a eu Chouma, Jean-Berkimas Misago, il y a eu Laurent qui a disparu en mars 2020, c'est-à-dire que les éléments de cette cellule sont particulièrement ciblés, probablement par le renseignement burundais et les différents services de renseignement du Burundi. La seule différence avec 2010, c'est qu'en 2010, les gens étaient appelés et quand ils répondaient à des appels téléphoniques, ils étaient tués et les corps étaient laissés sur des montagnes, au bord des rivières, à plusieurs endroits où les cadavres pouvaient être retrouvés. Les cadavres des victimes de Safisha ont été trouvés. Par contre, aujourd'hui, c'est différent. Les gens répondent à des appels et disparaissent. Aujourd'hui, ces personnes, on ne voit pas de corps, on n'a pas de corps. Les victimes de ces disparitions forcées, c'est cela qui est extrêmement inquiétant.
Pour Pacifique Ninina Hazwe, même si ces enlèvements sont observés après les élections, il y a une autre catégorie de personnes qui sont visées.
Mais il y a une deuxième catégorie de victimes, c'est des personnes qui seraient soupçonnées de collaborer avec des mouvements armés. Nous avons cette impression que le régime s'attend à beaucoup d'attaques et à des incursions des mouvements rebelles, mais en même temps, le régime ne parvient pas à trouver ces rebelles et il nous semble qu'il est en train d'arrêter tout ce qu'il croit qu'il pourrait être en collaboration avec le Red Tabara ou d'autres mouvements rebelles. C'est ainsi alors qu'il y a cette multiplication des arrestations, des enlèvements, des kidnappings. Alors ce que je voudrais dire aux autorités burundaises, ce genre de pratiques n'ont jamais abouti à de véritables résultats, même dans le passé. Aujourd'hui encore, ils se trompent, mais plutôt, ils sont en train d'encourager la rancœur de la population et on sait que la colère de la population peut toujours conduire à des situations ingérables que le pouvoir ne pourra pas contrôler.
Dans son message de la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées, le secrétaire général des Nations Unies indique que les disparitions forcées sont parfois utilisées sous prétexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Antonio Guterres signale toutefois que les disparitions forcées sont strictement interdites en toutes circonstances par le droit international des droits de l'homme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
Et pour clore ce journal, voici la revue de la presse hebdomadaire et vous est présentée par Alice Akimana.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue à cette revue de presse, vous tous qui écoutez la radio Inzamba Gateka Kawe. Nous la commençons par le volet politique. La bouc émissarisation devient marqueur de la gouvernance Ndayishimiye, écrit le journal Iwachu. En date du 9 avril 2021, tous les comptables communaux ont été démis de leurs fonctions. Selon le journal, ils ont handicapé la collecte des recettes en complicité avec les anciens percepteurs précédemment démis de leurs fonctions. Le deuxième acte a pour protagoniste les magistrats. Le processus permet au président Ndayishimiye de se ranger du côté de la souffrance ressentie par de nombreux justiciables et réaffirmer ses références auprès des faucons du CNDD-FDD en marchant dans le sillage du président de l'Assemblée nationale. En effet, en date du 8 juillet cette année, Gélase Ndawirabe, président de l'Assemblée nationale, avait tenu une réunion dans la commune de Kayogoro en province de Makamba. Il a dit, je cite, « Si on destituait tous les magistrats et qu'on amenait les vieux des collines, est-ce qu'ils ne pourront pas le faire ? Attention. » Fin de citation. Diplomatie pour continuer cette revue. Comment le Burundi veut-il redorer son blason à l'ONU ? S'interroge Jeune Afrique. Dans les couloirs des Nations Unies, la diplomatie burundaise ne restait pas inactive. L'objectif, éviter le maintien de la commission d'enquête onusienne sur le Burundi. Ainsi, le pays se prépare pour la session du Conseil des droits de l'homme prévue du 13 septembre au 8 octobre de cette année à Genève. Il aura l'occasion de convaincre le Conseil qu'il n'est pas nécessaire de renouveler pour une année supplémentaire la commission onusienne d'enquête sur le Burundi mise en place en 2017. Page économie de cette revue. Le Fonds de solidarité africain, une institution financière méconnue, écrit Burundi Echo. Le fonds a 46 ans d'existence. Le Burundi n'a jusqu'ici bénéficié que de 1,9% d'appui général, soit 13,8 milliards de francs CFA, environ 30 milliards de francs burundais. Selon le journal, l'Assemblée fédérale de commerce et d'industrie du Burundi estime que cela est dû à la méconnaissance de la banque et à la crise qu'a traversé le pays. Le Burundi, qui figure parmi les 15 pays fondateurs, a reçu peu d'appui comparativement aux autres pays membres, indique Safiatou Jakou, directrice de la coopération et de la communication au Fonds de solidarité africain. Clôturons cette revue par le journal SOS Média qui écrit que les autorités parlent des diminutions de cas de Covid-19 sans donner de chiffres. Le secrétaire permanent au ministère en charge de la Santé a précisé lors d'une réunion tenue ce mardi 25 août par le comité de riposte contre le Covid-19, a annoncé que la situation n'était pas alarmante. Il a remercié la population qui continue à respecter les gestes barrières. Mais quand un journaliste lui a demandé les chiffres qui prouvent la diminution du cas, Nzoli Longangouze a répondu que les chiffres n'étaient pas disponibles. Et sur le terrain, la situation est plutôt alarmante, selon SOS Média. Dans différentes localités, ainsi que dans les structures sanitaires, des sources révèlent que la situation est incontrôlable. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons la boucle de cette revue. Alice Kimana qui vous l'a présenté, vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition. Merci à l'équipe de la rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawe pour la production de ce journal. Josephine Johnson-Muzeman a été à la présentation. Merci également à vous pour votre fidélité. Au revoir.